au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Mathieu, bonjour à toi. Pourquoi quatre fois bonjour aujourd'hui?
Ouais, c'est une bonne question, en fait, parce que je n'ai pas quatre réponses.
Moi non plus.
Ah ben,
juste parce que,
ben
c'est une bonne réponse.
Ah oui.
Exactement. Merci beaucoup à toi. On a une grosse émission aujourd'hui. D'abord, un petit regard à la météo. Hein. Ça, encore aujourd'hui, hein, je pense que ça va être comme ça pour un petit bout. Québec, province atlantique, Manitoba, Saskatchewan, alternance soleil-nuage avec 40 % de probabilité d'averse presque partout. Risque d'un orage aussi par endroit. Et puis, ben, les maximums, ça va être 22 à 26 et les humidex de 28 à 35. C'est nuageux en Ontario, pas de pluie de prévu là, pour le moment. Humidex 25 à. Et puis, non, 29, il a maximum 25, humidex à 29. Dans le nord, il y a toujours des averses, risque d'un orage avec 20 degrés. Puis c'est en Alberta, en Colombie-Britannique, qui fait beau et chaud, 27 degrés, humidex 29. Ça va jusqu'à 30 en Colombie-Britannique. Alors aujourd'hui, on a une émission chargée. C'est beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. D'abord, on va parler avec notre chroniqueur de l'histoire, hein, Marcel Dugas. On va parler de sur quoi vous marchez, qu'est-ce qu'il y a sous vos pieds. Il y a des choses très intéressantes ici même à Montréal à voir ou à plutôt à découvrir. Et à la chronique économie, imaginez-vous qu'on va parler de... Mathieu, qu'est-ce qu'on va parler, tu penses, à l'économie?
Ah. Du sud.
Ouais, de c'est ça. Du géant Orange de l'autre côté et de la guerre tarifaire qu'il nous a déclarée au Canada. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est ça. Par contre, petit rayon de soleil aujourd'hui, ça va nous faire du bien beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va recevoir David Corriveau, chanteur, comédien et imitateur. Puis Céline Dion, elle vient avec lui. Alors, oui, on a Céline Dion à l'émission. OK, ben là... Ah, puis je laisse ça de même. Vous allez le voir tantôt. À la chronique livre, on va parler de romans graphiques avec Anne-Marie Aubin. Il s'agit de Opioïdes et organes. Alors ça peut être très, très intéressant. Puis, on va aussi parler du festival TRAD qui revient ici à Montréal, hein, programmation de musique, musique traditionnelle, danse traditionnelle et tout ça. Donc, à suivre dans cette émission. Ah oui, petit retour maintenant sur l'histoire et l'éphéméride du jour. 1944, c'est la libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. On se souviendra que le général de Gaulle prononce le soir même à l'Hôtel de Ville son fameux et célèbre discours « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Bon, on connaissait ces grandes déclarations, hein, son sens oratoire assez développé, merci. 1930, Sean Conway, acteur écossais, naît à Édimbourg. Hein, on le connaît pour ses rôles dans James Bond et puis même Indiana Jones. Il est décédé le 31 octobre 2020. Puis si je ne me trompe pas, il est décédé de la COVID. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était ça. Mais de toute façon, en 2020, pas mal de monde sont décédés, probablement à cause de la COVID. Si ce n'est pas de la COVID directement, c'est indirectement avec tout ce que c'est, avec les réductions de soins de santé parce que c'était compliqué, tout ça. 1970, c'est la naissance de Claudia Schiffer, mannequin allemande. Puis c'est une de ces fameuses personnes qu'on parle de super modèle. Hein. Elle a vraiment été marquante comme figure de la mode. Ah, puis tiens, aujourd'hui, c'est une journée internationale de la libération des seins nus ou topless. Alors, si c'était le 25 août, si ce 25 août tombait un dimanche, ben on le célébrerait. Je sais pas comment, puis j'ose pas en parler. Ah, et puis, Mathieu, est-ce que tu vas faire poser ta candidature pour l'Eurovision?
Absolument.
Oui, hein? Quelle chanson que tu vas chanter?
Ah non, je vais faire de la claquette.
Ah, mais je pense qu'il faut chanter à l'Eurovision.
Ben, je vais faire claquer mes... Je vais faire chanter mes suies à claquette.
Oui, parce que c'est du 31 août, je pense, pour 10 jours jusqu'au 9 septembre pour poser votre candidature parce que ça sera présenté à Radio-Canada. Pour représenter le Canada. Mais vous savez qu'il y a eu des Canadiennes qui se sont présentées à l'Eurovision, même une qui l'a remportée, mais pas pour le Canada, pour la Suisse. Bon, on écoute.
Vous qui cherchez l'étoile, qui vivez un rêve, vous grand que la terre. Vous, donnez-moi ma chance.
Les autres concurrentes et concurrentes n'avaient peu de chance face à Céline Dion et sa chanson « Ne partez pas sans moi ».
Oui, ah oui. Et quelle interprétation, c'est magistral. La chanson est très belle, hein? C'est un compositeur, auteur-compositeur turc, Attila. Là, j'essaie de prononcer son nom de famille comme il faut. Seré Tvug. Et la compositrice suisse Nella Martinetti. Elle avait remporté donc devant 600 millions de téléspectateurs.
600 millions de téléspectateurs.
En 1988.
Oh.
Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va être ici quand ça va être diffusé maintenant à l'échelle canadienne aussi. Ça va peut-être ajouter quelques millions à ça. Les unes aujourd'hui, bien, en une de la presse plus les enquêtes du directeur général des élections du Québec et de l'unité permanente anticorruption concernant la course à la direction du Parti libéral du Québec de 2025 sont à toutes fins utiles terminées. Il ne révèle aucune preuve de l'existence d'un stratagème d'achat de vote. Après plusieurs mois de vérification, les deux organismes d'encadrement et de surveillance n'ont retenu aucune infraction à la loi électorale ni aucune faute criminelle à l'endroit de l'ancien chef libéral Pablo Rodriguez. À ce stade-ci du processus, aucune accusation ni aucun constat d'infraction ne sont déposés contre quiconque. Au cœur de la controverse, l'UPAC conserve un volet d'enquête ouvert portant sur les messages textes qui laissaient croire à la distribution de billets de 100 $ appelés Brownies pour financer des appuis politiques. C'est le Journal de Montréal qui avait publié l'article dévoilant ces échanges de textos au mois de novembre. Les enquêteurs de l'unité permanente anticorruption ne sont pas en mesure d'établir l'authenticité de ces messages et soupçonnent désormais qu'ils ont été fabriqués de toutes pièces dans le but explicite de nuire à Pablo Rodriguez. La démarche journalistique du quotidien Le Journal de Montréal n'est pas mise en cause pour le moment, dans la création de ces pièces, tandis que les pistes suivies pour identifier les auteurs de cette manœuvre n'ont pas permis de tirer de conclusion pour le moment. L'enquête menée par le DGEQ cible pour sa part l'homme d'affaires Emmanuel Cabral, soupçonné d'avoir remboursé en argent comptant des contributions politiques versées par des participants lors d'une soirée de financement. L'organisme électoral conclut que Pablo Rodriguez n'était pas informé des agissements de cet homme d'affaires. Par ailleurs, l'ancienne députée libérale Sonia Lacoyane-Olivier est mise en cause par le DGEQ pour l'utilisation partisane de son bureau de circonscription durant la campagne. Il est également ciblé par l'UPAC pour avoir fait entrave au travail des enquêteurs au cours de leur démarche. Un nouveau sondage Léger Québécois, publié par le Journal de Montréal, dessine les tendances politiques à quelques heures du déclenchement de la campagne électorale au Québec. Le Parti québécois, dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon, maintient sa position de tête en récoltant 30 % des intentions de vote à l'échelle de la province. Et la coalition Avenir Québec et la première ministre Christine Fréchette s'imposent désormais comme une alternative viable au Parti québécois. La gestion de la crise tarifaire avec les États-Unis profite à la chef caquiste, tandis que le recul du Parti libéral l'aide également, parce que le chef libéral, Charles Milliard, voit ses appuis glisser à 23 %, un score comparable à celui de son prédécesseur au moment de son départ. La baisse libérale s'explique en partie par les gains du Parti conservateur, de même que par le transfert d'électeurs non francophones. Avec 16 % des voix à l'échelle nationale et 28 % des intentions de vote dans la région de la Capitale-Nationale, la formation d'Éric Duhaime se retrouve en position d'effectuer une percée majeure à l'Assemblée nationale. À la gauche du spectre politique, Québec solidaire et sa co-porte-parole Ruba Gazal connaissent une baisse importante, ne recueillant plus que 7 % des appuis. Le sondage révèle par ailleurs qu'un segment substantiel de l'électorat, soit 44 % des personnes sondées, indique ne pas avoir fait arrêter leur choix définitif en vue de ce scrutin du 5 octobre. Ce sondage web a été réalisé du 21 au 24 août 2026 auprès de 10 010 Québécois âgés de 18 ans et plus. Les répondants ont été recrutés aléatoirement grâce à une plateforme en ligne Léo afin des fins de comparaison. Un échantillon probabilistique de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 3,08 % et cela 19 fois sur 20. Et une petite dernière, évidemment, on va devoir parler de cette guerre commerciale que livrent les États-Unis au Canada, c'est dans le devoir. Elle a franchi un nouveau seuil en tournant à l'affrontement verbal direct. Je pense que c'est ça qui commence à être vraiment drôle. C'est un vrai téléroman, cette histoire-là. Entre, cette fois-ci, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le président Donald Trump, donc deux têtes fortes, exaspérés par les dernières menaces tarifaires visant les secteurs de l'acier et de l'automobile, le premier ministre ontarien a ouvert les hostilités en invitant publiquement le président à lui, je vais ouvrir les guillemets, lécher le et je ferme les guillemets, avant d'ajouter plus tard que Trump était un raté. La réplique de Trump ne s'est pas fait attendre sur le réseau Truth Social. Il a qualifié les sorties de Doug Ford de fanfaronnade, le présentant comme le frère le moins charismatique, le moins intelligent et globalement moins impressionnant du regretté Rob Ford. Doug Ford a surenchéri en déclarant que l'ancien président états-unien Ronald Reagan serait dégoûté par les actions de Trump et en vomirait depuis son portrait. Cette escalade verbale survient au moment où le premier ministre de l'Ontario menace de couper les approvisionnements en électricité et les minéraux stratégiques vers les États-Unis. Puis là, ben, je pense que Donald Trump a même menacé de rebaptiser le lac Ontario pour le lac America. Je pense qu'on va aller en musique. Ça va nous faire du bien parce que me semble c'est trop.
Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. C'est ce qu'on oublie, c'est toujours trop. demain. Je rachète hier. Le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité. Chanter la grande France. C'est toujours faux pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment.
Et voilà, évidemment, qui était interprété par Lazara, une autre Québécoise qui, cette fois-ci, représentait en 2023 la France avec cette chanson, moi, que je trouve formidable. J'adore les paroles de cette chanson, j'adore le rythme, et qui s'est retrouvée en 16e place lors du vote final. Et on se souviendra de ce geste qu'elle a fait à l'écran, que certains et certaines ont... dit que c'était plus un doigt d'honneur, mais elle disait que c'était un geste qui s'appelle toz dans sa culture maghrébine et qui donc voulait dire plus qu'elle était déçue. Bon, on va laisser ça là. Et on s'en va maintenant un petit peu faire un peu d'histoire avec Marcel Dugas. Bonjour Marcel.
Bonjour Denis Martin, comment allez-vous?
Ça va très bien. Je suis en forme, mais quand on parle de l'Eurovision, moi j'aime bien. Je suis content de voir que ça va être maintenant chez nous. Là, j'aurais pas besoin d'aller me promener sur les internets pour voir ça. Alors oui, on va parler donc avec vous, on va parler de ce qui se trouve sous nos pieds en ce moment.
Oui, ouais, on réfléchit pas souvent à, ouais, à cette idée-là. Qu'est-ce qui se trouve, les endroits où on vit, où on travaille, où on s'amuse, qu'est-ce qui occupait ces sites-là il y a 100 ans, il y a 150 ans? Et je vais vous donner juste un exemple. Les gens, ils sont nombreux, qui travaillent au complexe Ville-Favreau, sur le boulevard René-Lévesque, passent leur journée sur le site du premier cimetière protestant de Montréal. Et ce n'est pas une situation unique. Ah. Autant du régime français et dans les premières décennies après la conquête, on a enterré des catholiques dans plusieurs différents sites de ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal. Après l'adoption d'un règlement qui interdisait l'inhumation des défunts à l'intérieur des murs de la ville, qui était fortifié à ce moment-là, Montréal va se doter d'un cimetière catholique digne de ce nom. On ouvre en 1799 le cimetière Saint-Antoine, qui couvrait la majeure partie de la place du Canada, du Square Dorchester et des rues qui délimitent ces deux places aujourd'hui. Et on s'était donné pour mission de vider tous les cimetières de la ville et de transposer les restes à Saint-Antoine. On n'a pas tout à fait réussi. On retrouve des ossements de temps à autre en creusant à travers le Vieux-Montréal, mais la majorité des catholiques enterrés à Montréal entre 1642 et 1799 se sont retrouvés à Saint-Antoine et on a construit par-dessus ces anciens cimetières-là qui étaient maintenant désaffectés. Mais le problème qu'on a dans les villes, c'est qu'on a beau installer des cimetières en dehors des zones peuplées, la civilisation finit toujours par les rattraper, que ce soit le cimetière protestant de Guy Favreau, le cimetière Saint-Antoine ou les autres. Si vous voyez où se trouve la place du Canada et le Square Dorchester par rapport au Vieux-Montréal, Saint-Antoine n'est pas demeuré un cimetière de campagne très longtemps. Il était devenu une nuisance au milieu du 19e siècle et c'est là qu'on a eu l'idée d'enterrer nos morts sur le Mont-Royal. En 1854, la fabrique de la paroisse Notre-Dame, qui était encore à ce moment-là la seule paroisse de Montréal, il y en avait d'autres sur l'île, mais Notre-Dame couvrait le territoire de la ville-centre tout entière. Donc, la fabrique achète une terre agricole à la Côte-des-Neiges, sur les flancs de la montagne, pour y installer un nouveau cimetière qu'on appellera Notre-Dame-des-Neiges. La terre appartenait à Pierre Beaubien, médecin, homme politique, banquier, grand propriétaire terrien. D'autres terres avoisinantes seront achetées au fil des ans et le cimetière d'aujourd'hui a trois fois la superficie de la propriété achetée à Beaubien et c'est le plus grand cimetière du Canada. C'est une nommée Jane Gilroy, inconnue à part le fait qu'elle est devenue en mai 1855 la première personne enterrée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui a eu droit à cet honneur-là. Et c'est l'architecte Henri-Maurice Perrault qui a réalisé les plans, en s'inspirant notamment du Père Lachaise à Paris. Il y a pire comme modèle à prendre. Oui. Alors que son oncle, John Austell, un des architectes les plus en vue du Montréal de l'époque, il a dessiné des églises, le Grand Séminaire de Montréal, l'ancien Palais de Justice, aujourd'hui l'édifice Lucien Saunier, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est à lui qu'on doit la chapelle et le pavillon d'accueil. Austell, c'est un Britannique, né dans la religion anglicane. Il s'est converti au catholicisme à la toute fin de sa vie pour pouvoir être inhumé dans le cimetière dessiné par son neveu et pour lequel il a signé plusieurs édifices. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, Notre-Dame-des-Neiges, c'était un cimetière catholique et on était très rigoureux là-dessus. C'est ce qui fait que dans une ville francophone catholique qui comptait quand même une grosse communauté anglo-protestante, on s'est doté de deux cimetières dos à dos sur la montagne pendant la décennie 1850. Il y a Notre-Dame-des-Neiges et il y a le cimetière du Mont-Royal. Les deux sont voisins où sont enterrés plusieurs anglo-montréalais éminents. Je pense à John Molson de la brasserie du même nom, Henry Burks, l'homme de la bijouterie, Hugh Allen, qui était l'homme le plus riche du Canada à son époque, la légende du Canadien Howie Morin se trouve au cimetière du Mont-Royal aussi. Et on y retrouve un certain nombre de catholiques qui ont fini leur vie en rupture de ban avec l'Église, comme l'écrivain et journaliste Jean-Charles Harvey. Et il y a un petit passage entre les deux cimetières qui nous permet d'aller de l'un à l'autre tout au fond. Il n'est pas si facile à trouver d'ailleurs. L'animosité entre catholiques et protestants, c'est plus ce que c'était, mais la frontière entre les cimetières demeure. Et ça peut sembler étrange qu'on réserve une aussi grande portion de la montagne aux défunts, parce que, sauf leur respect, les vivants doivent passer en premier. Mais la présence de ces cimetières-là, qui ont été créés deux décennies avant le parc du Mont-Royal, aura contribué à protéger le lieu des spéculateurs et des développeurs. Parce qu'un cimetière, c'est pas un parc public, mais c'est accessible à tout le monde, gratuitement. On peut y déambuler autant qu'on veut. C'est pas comme si on avait fait des développements résidentiels, c'est pas comme si on avait installé un golf, un club de chasse à cours ou quoi que ce soit d'autre. C'est aussi un musée à ciel ouvert. À Notre-Dame-des-Neiges, on peut voir des monuments sculptés par plusieurs de nos grands artistes, Louis-Philippe Hébert, Émile Brunet, Alfred de la Liberté. On y retrouve aussi un obélisque en calcaire de 18 mètres de hauteur en hommage aux patriotes de 1837-1838. Et l'histoire est intéressante. Les rébellions, c'était encore récent à ce moment-là, lorsqu'on crée le cimetière, et on n'avait pas de monument qui rappelait la mémoire de ceux qui ont pris les armes. Et l'Église catholique, rappelons-le, qui s'était rangé du côté des Britanniques pendant les soulèvements, du côté de l'ordre établi, la fabrique de Notre-Dame voulait voir s'ériger quelque chose de prestigieux dans son tout nouveau cimetière, se faire un peu de publicité. On s'est dit, ben pourquoi pas un hommage aux patriotes, même si on ne les soutenait pas vraiment quand ça s'est passé, et on a fait don d'un terrain. Il y a eu une campagne de souscription populaire pour ramasser les fonds nécessaires. On a inauguré en grande pompe la base de l'obélisque en 1858. Les travaux ont été complétés 8 ans plus tard.
Marcel, est-ce qu'on peut dire que la... Oh, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais en tout cas, je me ferai taper sur les doigts. Je vais y aller. Mais disons que la mauvaise foi, puis ça a toujours existé, quoi.
Ah ben ouais, voilà, les considérations publicitaires des fois, et puis je disais que c'est de l'histoire assez récente, ouais. Ça faisait quand même 20 ans, les gens avaient eu le temps d'oublier suffisamment pour ne pas qu'on voit peut-être l'incongruité de la chose.
Ouais, bon, ben voilà, on continue.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quelques patriotes qui sont enterrés au pied du monument, par contre, quand on a voulu transférer la dépouille de Jean-Olivier Chénier, tué à la bataille de Saint-Eustache de 1837, là, l'archevêque de Montréal a mis son veto. Faut dire qu'à Saint-Eustache, si on se rappelle comment ça s'était passé, les patriotes s'étaient retranchés dans l'église pour tenter de se défendre des Britanniques. L'église n'a pas tellement aimé ça. Donc, Chénier, non. C'est ce qui fait qu'on peut lire sur le monument, sous le nom de Chénier, « Ses restes reposent ici ». Alors qu'ils sont au cimetière de Saint-Eustache, la gravure s'est faite un peu prématurément. Il y a le monument funéraire de Maurice Richard, qui est très impressionnant également. Ça doit être un des plus visités de tous les cimetières. Et il y a beaucoup de gens, connus ou pas connus, qui ont voulu se doter de beaux monuments funéraires avec des statues de saints, des anges. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Et un cimetière comme Notre-Dame-des-Neiges, ben, c'est un livre d'histoire. On ne peut pas y circuler plus de 5 minutes sans tomber sur un personnage qui a marqué l'histoire du Québec et du Canada. Il y a des politiciens, politiciennes, évidemment, contemporains comme Robert Bourassa, le libéral, et Brian Mulroney, le conservateur. D'autres qui ont occupé l'avant-scène politique dans un autre siècle, comme Sir Georges-Étienne Cartier, qui était chef de file des Bleus, donc les proto-conservateurs du Canada français dans les années de la Confédération, et Sir Antoine-Aimé Dorion, qui lui était chef de file des Rouges du Canada français, donc les proto-libéraux à la même période. Aussi, inhumés à quelques secondes de marche l'un de l'autre, on retrouve 6 décennies de politique municipale montréalaise. Vous avez Camille Lienhoud, maire pendant 18 ans, entre les années 1920-1950, on l'a appelé Monsieur Montréal. Et d'autre part, celui qui lui a succédé en 1954, qui a occupé la mairie pendant 29 des 32 années suivantes, qu'on a aussi appelé Monsieur Montréal, Jean Drapeau. Les deux sont pratiquement voisins. On a aussi beaucoup de femmes importantes, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, deux de nos plus grandes suffragettes et féministes, l'ex-ministre et publicité de la télé, Lise Payette, Jeanne Sauvé, la première femme présidente de la Chambre des communes et la première gouverneure générale du Canada. On a les fondateurs de presque tous les grands quotidiens de langue française qui ont marqué les 2 derniers siècles de l'histoire montréalaise. Pierre Péladeau du Journal de Montréal, Henri Bourassa du Devoir, Tréflé Bertillon de La Presse et les autres. Et au niveau artistique, littéralement tous les arts sont représentés dans le cimetière. Si on cherche un peu, on va en trouver. Émile Néligan, poète de génie qui a connu une vie assez malheureuse. André Mathieu, pianiste de génie qui a connu une vie assez malheureuse. On a Olivier Guimond et Denis Drouin, les deux compères, les deux stars du fameux sketch du soldat qui fait sa ronde à Westmount au Bye Bye 1970, entre autres. On a Claude Léveillé, La Bolduc, Jean-Paul Riopel, Gracien Gélina, Gilles Carl. Je pourrais continuer mon énumération jusqu'à la fin de l'émission, tellement il y a de noms connus, tellement de gens qui ont eu une résonance dans notre histoire. Mais je considère que ça vaut vraiment le détour de passer par là. Si on en a la capacité, par une belle journée d'été, oui. On en a des belles journées qui s'en viennent au mois de septembre. Une petite balade au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ça vaut vraiment la peine. Moi, je le recommande fortement.
Marcel Dugond, c'est rendu à la fin de la demi-heure. C'est quand même pas si mal. C'est beau. Merci beaucoup, Marcel.
Merci à vous.
À la prochaine. Nous, on revient après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Roxane Bruno et sa chanson « Pourquoi j'écris ».
Et maintenant, on se tourne vers Michel Poitevin, qui est économiste et professeur à l'Université de Montréal, et on va parler d'économie aujourd'hui. Allô, Michel.
Bonjour, Denis Martin.
Oui, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. On va parler de la guerre tarifaire que nous livre Donald Trump. Moi, je fais bien attention, c'est pas une guerre entre les deux, c'est lui qui a commencé, fait que c'est ça le problème, là. Alors, on parle de cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Les négociations sont rompues, qu'est-ce qui se passe?
Ben oui, je pense juste en passant. De lui, j'ai pas l'impression qu'il pense que c'est lui qui a commencé la guerre. Il a mis des tarifs qui étaient dans sa tête justifiés, puis... Si on fait des représailles, bien là, c'est nous qui commençons la guerre. Je pense un peu comme ça qu'ils voient ça. Mais,
mon Dieu, il faut être tordu, hein?
Hey, là, là. Alors, ben oui, vendredi soir, les négociations ont été rompues. Puis ce qu'on a appris un peu après, voici les États-Unis, là, rapidement, ce qu'ils proposaient, ils voulaient enlever les droits de douane de 10 % sur le bois d'œuvre résineux qui avait été imposé l'an dernier. Il réduisait les droits de douane de 25 % sur les voitures, d'autres tarifs qui avaient été instaurés l'an dernier par Trump. Parce qu'il faut le rappeler, là, peut-être qu'on oublie depuis un an, mais on avait un pacte de libre-échange avec les États-Unis.
Qui l'a négocié, c'est lui.
Qui lui-même a négocié, effectivement, puis il avait dit à l'époque que c'était une des meilleures ententes, etc. Là, puis finalement, apparemment, on les exploite comme c'est pas possible. Alors... il réduisait également de 50 à 25 % les droits de douane sur l'acier expédié par le Canada. Il y avait une espèce de contingent tarifaire. Ça veut dire qu'il y a une certaine quantité qui était libre ou qui avait le taux réduit à 25 %. Puis au-delà de cette quantité-là, ben, le taux était maintenu à 50 % de droits de douane. Pour l'aluminium, ils voulaient réduire de 50 à 25, puis sans contingent tarifaire. Et puis, évidemment, ils suspendaient les derniers droits de douane qui avaient été annoncés il y a peut-être un mois, là, de 50 % sur 28 milliards là, d'exportations canadiennes vers les États-Unis. Donc ça peut sembler bien. Évidemment, c'est encore une fois, c'est pas le libre-échange parce qu'il y a quand même des tarifs importants qui restent sur certains biens. Mais le Canada aurait été relativement bien traité. Puis je pense que jusque-là, les Canadiens auraient été prêts à accepter. Mais là, comme on a appris à la dernière minute, les États-Unis ont introduit des nouvelles clauses là, qui carrément étaient inacceptables. Je pense que c'est unanime au Canada, ça n'avait aucun sens d'accepter ça. Donc, en gros, il limitait notre capacité à signer des ententes commerciales avec d'autres pays. Peut-être pas tous les pays, mais certains pays n'ont pas été nommés, mais on peut probablement penser, entre autres, avec la Chine. Limiter notre capacité à signer des accords de vente de nos métaux rares avec d'autres partenaires, parce que lui, il veut les avoir, ces métaux rares-là. Il y avait des exemptions sur la langue, on en a beaucoup parlé. Pour les compagnies américaines, il n'y avait pas à mettre leur étiquetage en français. Et on devait continuer à renoncer à la taxe là, de 3 % sur le profit des entreprises numériques. Une taxe que Carney avait enlevée un peu pour essayer d'acheter de la bonne foi de la part des Américains. Là, de toute évidence, ça n'a pas marché. Puis là, il fallait continuer à ne pas imposer cette taxe-là. On ne peut pas imposer de contenu canadien aux entreprises multimédia. Suppression des contributions au contenu canadien payé par ces entreprises, les contributions payées aux producteurs de nouvelles. Là, si vous vous souvenez, on avait dit, bon, ben, si les Google, Facebook de ce monde utilisent les nouvelles relayées par nos journaux, par exemple, ils devraient payer une contribution. Google a accepté de payer cette contribution, si je me souviens bien, puis Facebook a refusé. C'est pour ça que Facebook, on ne peut plus voir de lien. Là, si vous essayez de partager un lien d'un article dans Le Devoir ou la presse, il ne sera pas affiché. Donc, puis c'était suite à ça. Donc, ça aurait réduit significativement notre souveraineté. Une façon d'interpréter toutes ces nouvelles clauses que Trump imposait, c'est de vouloir faire du Canada le 51e État. Peut-être pas politiquement, mais essayer de nous rendre un 51e État au niveau économique. Alors, on peut comprendre que le premier ministre Carney a décidé, bon, ça suffit, là, on quitte la table des négociations.
Et là, la guerre est déclarée.
La guerre est déclarée. Donc, avant le dernier sprint de négociation, il y avait ces tarifs là, dont on parlait de 50% que Trump imposait. Ça visait à peu près 5% des exportations canadiennes. Donc, c'est pas énorme, là, mais il y a quand même certains secteurs ciblés où ça aurait pu faire mal. Alors, évidemment, ces tarifs-là vont être maintenus. Et puis, il y a eu de nouvelles annonces là, de Trump, là, parce que Carney a dit on va répliquer dollar par dollar. Puis, il y a une nouvelle annonce de Trump là, d'augmenter à 50% le tarif sur les autos et les pièces d'auto. Alors, c'est quoi notre situation? Si on regarde de façon agrégée, là, ça semble gros, ces tarifs de 50% puis tout ça. Puis il y a certains secteurs, encore une fois, qui vont payer des tarifs élevés. Mais le taux tarifaire moyen, par exemple, pour le Québec, avec les États-Unis, c'est de 11%. Qu'est-ce que ça veut dire, le taux tarifaire moyen? Mais certains biens pourraient être tarifés à 25-30%, mais il y en a d'autres qui sont encore sous l'accord de libre-échange qui avait été négocié puis qui sont libres de tout tarif. Alors, certains sont à 50-25, d'autres à zéro. Puis quand on fait la moyenne en proportion là, du montant des exportations de ces différents biens-là, on arrive à 11%. On est la province la plus touchée au Canada. L'Ontario est pas loin derrière avec un taux moyen de 9%. Puis ça avait été calculé avant les nouveaux taux de 50% sur les autos. Puis on sait que l'industrie automobile est surtout concentrée en Ontario. Maintenant, l'Alberta et Terre-Neuve sont les deux provinces les moins touchées par ces nouveaux tarifs-là. Donc, les représailles du Canada, ils vont en avoir. Carney a dit qu'il en avait, puis il doit les annoncer aujourd'hui. Là, je pense pas qu'ils les aient annoncés encore. On pense, là, mais disons qu'il faut faire attention avec ces représailles-là, parce que ça va nous faire mal à nous aussi. Donc, il faut essayer de trouver des secteurs où ça nous fait le moins mal possible, mais que ça fait le plus mal aux Américains. On indiquait que probablement il y a des produits d'acier qu'on exporte vers les États-Unis, des produits laitiers, que les États-Unis nous vendent, les produits laitiers, électroménagers, équipements agricoles, pâtes et papier, appareils électroniques là, qui pourraient être dans le panier de biens là, sur lesquels on imposerait des tarifs, donc sur les importations des États-Unis vers nous. Et bien, pour certains de ces biens-là, prenez des électroménagers, par exemple. Bon, il y a des compagnies américaines, il y en a qui sont fabriquées aux États-Unis, mais il y a des substituts ailleurs. Alors, si on est capable de viser, idéalement, on voudrait cibler des produits américains qui ont des substituts relativement proches ou à peu près de prix équivalent qu'on peut trouver ailleurs, par exemple en Corée, en Chine ou au Japon. Mais nous, ça nous affecterait pas trop, mais ça peut faire mal aux entreprises américaines ciblées. Donc, ces mesures-là vont être détaillées. Donc, il y a des annonces qu'on attend aujourd'hui, là, puis ils devraient prendre effet le 8 septembre. Alors que les tarifs, je ne l'ai pas mentionné, les tarifs sur les autos canadiennes et les pièces prendraient effet le 1er janvier 2027. Donc, c'est pas tout de suite.
On va sauter rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais oui. Dans tout ça, là, ça coûte cher à qui?
Bien, ça coûte cher aux consommateurs canadiens. Les mesures de représailles vont coûter cher aux consommateurs canadiens. Les tarifs américains font mal aux consommateurs américains, mais les entreprises aussi là-dedans sont... nous, des entreprises de meubles, par exemple, dans les tarifs de 50%, il y avait les meubles qui étaient là-dedans. Donc, au Québec, on en fabrique des meubles. On en vend aux États-Unis. Donc, eux, ça sera pas facile. On parle de diversifier les marchés, mais tout ça, ça prend du temps. On avait développé des liens avec des partenaires américains, avec des chaînes, par exemple pour le meuble, avec des chaînes de distribution, des magasins de commerce, de vendeurs de meubles et tout. Ben là, s'ils achètent moins nos meubles, il faut trouver d'autres partenaires, par exemple en Europe, en Amérique du Sud. Donc, à court terme, ça va faire mal. Je pense qu'à long terme, l'économie canadienne peut se relever. Là. Quand on regarde juste un peu au niveau agrégé, au niveau de la planète s'enrichit. Hein. Il y a de oui. moins en moins de pays où il y a une extrême pauvreté. On regarde l'Amérique du Sud, la Chine s'est énormément enrichie depuis 50 ans. sud-est asiatique. Donc, en Afrique, maintenant, c'est un peu le boom là, dans plusieurs pays. On s'enrichit. Donc, il y a des nouveaux marchés qui vont être à portée de main, mais ça va être long avant de les frapper.
Mais en fait, c'est un peu, je pense, c'était la vision de Mark Carney, c'est de un peu se défaire de notre dépendance à l'économie américaine. Et puis, on voit qu'il s'en va aussi en l'Europe. C'est quand même le plus grand marché mondial. Puis, on commence à aller lorgner un peu de ce côté-là, je vois bien.
Hein. Aller plus en Europe. On a signé un accord avec l'Inde, qui est un énorme marché. Il y a plus d'un milliard de consommateurs. L'Inde aussi, tu sais, la classe moyenne. Quand les pays avec la croissance économique s'enrichissent, il y a une classe moyenne qui est importante, qui commence à avoir des moyens d'acheter des biens importés, tu sais, par exemple, acheter des plus beaux meubles, des voitures, etc. Donc, il y a des opportunités, mais c'est sûr que ça va être long.
À court terme, peut-être ça va être difficile, mais à long terme, peut-être que ça sera bénéfique. Et puis, c'est quand même dommage, hein, je termine là-dessus, c'est quand même dommage parce que cette relation canado-américaine, elle est là depuis longtemps, puis elle a toujours fonctionné pour les deux parties. Mais là, présentement, ça va pas bien.
Puis souvent, on a des amis aux États-Unis. Moi, je sais, j'ai un bon ami à Chicago, puis il nous invite à aller le visiter. Puis là, je lui dis, ben, je vais me garder une petite veine en ce moment. J'ai pas trop le goût d'y aller, là.
On se comprend là-dessus, Michel.
Quand vous changerez de président.
C'est toujours un plaisir d'entendre tes commentaires très, très, très instructifs sur l'économie. Moi, on se reparlera à un autre moment. C'est mon dernier mardi cet été ici à Canalem.
Ah bon, mais bonne continuation, puis c'est sûr qu'on va se recroiser bientôt
très bientôt.
Canalem, j'espère.
J'espère. Merci beaucoup, Michel. Nous, on prend une petite pause et après, on se fait un petit plaisir. On va parler avec David Corriveau et une invitée mystère, Céline Dion. À tout de suite. Imitateur et chanteur David Corriveau, actuellement en tournée partout au Québec avec son tout premier spectacle solo intitulé « Sans contrefaçon », est venu nous rendre visite aujourd'hui. Alors, bienvenue à l'émission, David.
Ben merci, bien content d'être là.
Alors, ben moi, on va y aller tout de suite. Hein. Tu as commencé dès l'enfance à chanter ou à faire du spectacle devant des poules. J'ai bien lu ça dans ton village de Saint-Boniface de Shawinigan, devant des poules.
Ben en fait, c'était mon premier public parce que moi, j'étais le premier qui se levait le matin à 6 heures l'heure des poules. Puis c'était ma job d'aller soigner les poules, donner de la moulée puis de l'eau. Puis j'ai toujours aimé ça, chanter. Fait que les poules, en plus, quand tu te mets à leur chanter, ils arrêtent de bouger puis écoutent.
Ah ouais?
Ouais, quand tu te mets à chanter, whoop, il arrête, la tête se lève, puis il écoute, puis il bouge pas.
Ben, tu sais que je vais aller tester ça bientôt.
Ben, je te jure que c'est vrai, tu essaieras.
Je sais pas, je chante pas aussi bien que toi, par exemple.
Non, mais c'est comme si j'ai remarqué, jeune, que le chant, ça attire l'attention, beaucoup. Que tu sois n'importe où, quand quelqu'un se met à chanter, vous remarquerez ça, le monde écoute, ça attire. Fait que moi, j'aimais ça. Puis tu sais, j'étais un gars avec trois sœurs, fait que j'avais beaucoup de potentiel avec qui me chicaner, fait que je me ramassais souvent dans ma chambre, tout seul. Mes trois sœurs étaient dans leur chambre, moi, j'étais seul de gars, fait que j'étais seul dans ma chambre. Puis pour passer le temps, ben j'allumais la radio. Puis je m'amusais à chanter comme la voix qui sortait de mon radio. Puis pour vrai, c'est comme si, à un moment donné, quand ça ressemblait, je devenais la radio. Puis c'était comme une expérience que je trippais. Je m'imaginais que c'était moi, ces plus grandes scènes, puis tout ça, puis je trippais bien rude.
Justement, t'es un des rares hommes à réussir l'imitation de grandes voix féminines, pas n'importe lesquelles. Céline Dion, Ginette Renaud. Ben, c'est quoi le défi quand on a une voix de gars, d'imiter une voix féminine?
Ben, c'est ça le défi, c'est de faire quelque chose que personne ne fait. Puis c'est moi, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé les grandes voix. Même plus tard, quand j'étais au conservatoire, j'ai découvert Piaf avec le film La Môme Piaf, qui a sorti l'année où est-ce que j'ai sorti du conservatoire en 2008. Puis ce qui était fou de ce film-là, c'est que c'était une actrice, Marion Cotillard, qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là, parce qu'elle jouait tous les âges de la vie d'Édith Piaf. Puis moi, ça m'a tellement parlé, autant comme chanteur que comme comédien. Ce film-là m'a rentré dedans. Puis c'est depuis ce moment-là que j'imite Édith Piaf. Puis mon ami Steve Gagnon, qui est comédien aujourd'hui, qui joue un peu partout, tu sais, il était dans ma classe. Puis je m'amusais à imiter Madame Piaf des couloirs du conservatoire. Puis des fois, il me disait, Madame Piaf, laissez mon ami David tranquille, je veux y parler. Tu sais, fait qu'on faisait beaucoup de fun. Mais aujourd'hui, il a vu mon show, puis il a dit, oh mon Dieu, David, je comprends tout. Je comprends qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là. C'est que ça t'a emmené à aujourd'hui sur ton X. Fait que j'ai toujours aimé les grands défis, les grandes voix. Fait que pour moi, tu sais, je veux dire, je serai jamais pareil comme Ginette ou comme Céline. Je suis un gars, j'ai de la barbe, j'ai des couilles, tu sais, dans le sens que je suis comme, ce sera jamais pareil. Mais la suggestion, ça a réussi à toucher les gens. Ben, pour moi, la mission est accomplie.
Tu as même déjoué l'algorithme de YouTube. Une vidéo où tu chantes Céline Dion, puis il y a eu des problèmes de droits d'auteur là-dessus.
Ouais, avec Amixem, en fait, ça fait pas longtemps, ça fait 4-5 mois. Il m'a écrit sur Instagram, puis il me disait, hey, tu voudrais-tu participer à On juge 50 imitateurs? C'est une des émissions que je fais de créateur de contenu sur YouTube qui marche le plus. Je dis, ben, j'étais au Québec. Ben, il m'a dit, je te paye le voyage. Je fais, OK, tu sais. Fait que je suis allé faire ma minute. Ce qu'il voulait que j'imite Céline, tu sais. Puis j'adore la France. À chaque fois que je vais là-bas, je les aime. Dans le sens que l'accueil que j'ai, ils sont chaleureux, ils nous aiment, ils sont gentils. Je me fais toujours des nouveaux amis. J'adore la France. Et écoute, l'accueil a été... J'ai jamais vécu ça. Dans le sens que je commence à chanter, je suis jet lag. Dans le sens que, tu sais, je suis décalage horreur. La voix est pas 100%, mais tu sais, je fais du mieux que je peux. Puis quand je me mets à chanter, à Mixem, ça se pitch à terre. Tout le monde capote, tu sais, c'est bien intense. Puis même les 50 imitateurs, je passais le dernier, on est comme en compétition amicale, tu sais. Ben, ils se sont levés, puis ils m'ont fait un standing ovation ben quand voyons. J'ai fini. Puis Amixem, tu sais, il t'assoit sur. Il y a comme 5 paliers où est-ce qu'il t'assoit. Dans le fond, t'es moins bon, puis en avant, t'es bon. Ben, Amixem, il est comme le juge, il m'a donné son gros fauteuil capitonné, il m'a en avant, puis il dit ça, c'est ta place, Céline. Puis j'étais comme, waouh, tu sais, my God, ça m'a beaucoup touché. J'étais vraiment heureux, j'étais comme, waouh, parce que, tu sais. Tout ça pour dire que quand t'es un gars qui imite des voix de femmes, ben c'est différent dans le sens que tu t'es pas à mode quand t'es, mettons, au secondaire ou ces trucs-là. T'sais. Fait qu'il fallait toujours que je me batte parce qu'en dedans de moi, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis là, d'aujourd'hui, d'avoir l'approbation des gens qui font « Hey, c'est cool ce que tu fais » puis tout, quand t'étais plus jeune, peut-être tu te faisais écœurer avec ça. C'est comme si je fais la paix avec mon petit gars quand j'étais jeune puis je fais « T'avais raison d'y croire, mon gars. » Fait que, puis tout ça pour finir que Amixem, ben... quand ils l'ont mis sur YouTube, ben les robots YouTube ne voulaient pas qu'ils monétisent l'heure et demie de son émission à cause de ma minute de performance parce que les robots pensaient que j'étais Céline. Fait qu'ils ont enlevé la musique, ils m'ont laissé à capella. Les robots YouTube pensent encore que j'étais Céline. J'ai pas la prétention de dire que j'étais comme Céline. Je pense que c'est les intonations que je prenais fitaient exactement avec Pour que tu m'aimes encore. Fait qu'eux, ils faisaient l'association puis ils disaient tu peux pas monétiser. Fait que durant l'émission, ben. Pendant que c'est ma prestation, ils mettent de la musique d'ascenseur puis ils disent « Voici le lien non monétisé pour voir la performance de David. » Et là, en France, écoute, c'était vu 10 millions de fois en une semaine. Tout le monde disait « C'est pareil, c'est pas pareil, c'était bien intense.
» Justement, est-ce que tu as eu des retours genre de Céline Dion ou Ginette Renaud sur leur voix que tu imites?
Céline, non, mais sa sœur Claudette, j'ai déjà été à la fondation Adhémar Dion.
Oui.
Puis elle était là, j'imitais Céline. Puis elle a dit « t'es bien le fun, elle a trouvé ça bien drôle, elle a trouvé ça le fun. » Ben, tu es au courant. Céline, je sais pas, mais mon rêve un jour, ce serait vraiment de la rencontrer. Puis, ben, Ginette Renaud, j'ai fait son En direct de l'univers il y a à peu près 6 mois.
Ouais.
Où est-ce que, selon elle, je savais même pas, mais elle trouvait que j'étais le meilleur pour l'imiter. Et après l'émission, un de ses garçons que je connaissais pas, pas Pascalin, un autre, il est venu me voir, puis il dit, écoute, il dit, je t'ai vu avec Marc Dupré, là. Puis il dit, tu chantes pareil comme moi. Et moi, le fait qu'il me dise ça, j'ai comme eu la bénédiction. Je fais, OK, ça fonctionne.
Je vais rapidement aller, parce que je voudrais qu'on parle aussi du show, mais tu as aussi fait un passage à la France à un incroyable talent.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de ça, de ton passage?
Une des expériences les plus intenses de ma vie, tu sais, le Golden Buzzer, là, quand ça part, puis les confettis, puis tout.
C'est le Golden Buzzer, c'est quand les 4 ou les 3 votent pour toi, c'est ça?
Non, c'est quand il y en a un des juges, t'es comme son chouchou, tu sais. Puis ça te fait passer à la prochaine étape. Genre, même pas la prochaine étape, c'était pas le quart de finale, c'était la demi-finale. Fait que ça te fait même passer une étape plus loin dans la compétition.
Ah, ouais.
Puis, ben, Sugar Sammy, je l'imitais. J'avais avec l'intelligence artificielle, j'avais son visage, puis j'imitais Céline. Puis, tu sais, j'étais vraiment nerveux, parce que je me disais, il peut me ramasser. Lui, il est très acerbe, des fois, dans ses répliques. Fait que j'étais très nerveux. Puis, même quand c'était le moment du jugement, on tournait la dernière journée des auditions le soir. Fait que dans notre tête, on disait, pour moi, il n'y en a plus de Golden Voice, ils ont déjà donné, tu sais. Puis, quand les juges passent, Hélène Segarra me dit, David, je t'aurais donné mon Golden Buzzer avec plaisir, mais je l'ai déjà donné. Mais c'est un grand oui pour moi pour que tu passes à la prochaine étape. Ah, dans ma tête, j'ai fait, il n'y en a plus. T'sais. Fait que quand Sugar Sammy, il me titillait un peu, il dit, ben là, je peux pas t'envoyer parce qu'il y a trop de Québécois. Il dit, je t'envoie directement en demi-finale. Puis quand il appuie sur le Golden Buzzer, mon cœur a arrêté. Puis on voit vraiment ma face qui fait, en voulant dire, j'en reviens pas. Puis que là, après ça, les larmes, parce que c'est justement encore la validation. Tu sais, quand j'étais petit, je le raconte dans mon show. Je suis en train de faire la vaisselle avec ma mère. Je vais avoir 6-7 ans, là, pas vieux. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard, mon beau gars, plus tard comme métier? J'avais dit, je veux chanter comme Céline Dion. Ben voyons donc, David, c'est impossible en campagne. Ouais. Elle dit, c'est impossible, mon beau gars. Elle dit, as-tu envie que le monde rise de toi? Moi, je veux pas que le monde rise de mon gars. Pas en tout, c'est impossible. Puis dans ma tête, pour vrai, là, je vous jure que c'est vrai, je m'étais dit, je vais éprouver que c'est qu'elle a tort. Que dans ce temps-là, les parents, ils avaient comme pas le droit de rêver parce que, bon, elle avait 4 enfants, c'était intense, puis elle était femme au foyer, puis tout. Fait que quand j'étais dans l'avion pour aller à Paris, pour aller imiter Céline Dion, puis en plus, ma chambre d'hôtel donnait sur le Stade de France, où est-ce que Céline l'a rempli en 99 avec son spectacle au cœur du... J'étais là, là. Puis ils m'ont payé mon voyage pour aller imiter Céline. J'étais comme, hey, t'as eu raison d'y croire. Puis aujourd'hui, ma mère est venue voir mon show. Puis elle était tellement émue, elle était tellement fière. Puis à
est-ce
la
que
fin...
c'est que tu viens de l'imiter là, devant moi au micro?
Oui, oui, elle voit mon show. Ben, elle trouve ça bien drôle, tu sais. Puis c'est beau. Ouais. C'est beau.
Le spectacle, donc, on parle de. Donc, sans contrefaçon, rapidement, c'est quelle sorte de spectacle? Qu'est-ce que tu proposes?
En fait, c'est comme une comédie musicale de ma vie, rock détente, années 80-90-2000. Des chansons que tout le monde connaît, mais qu'on n'entend plus. Mmh. Fait que les gens sont comme, oh mon Dieu, j'avais oublié cette chanson-là. Oh mon Dieu, oh, fait qu'il y a quelque chose de nostalgique, de touchant. Puis tu sais, c'est mon histoire où est-ce que quand j'étais petit, je commençais à chanter des chansons à mes poules. Après ça, à l'épicerie du village, je chantais le Titanic, la tête dans le frige d'Arabia. Puis quand les messieurs venaient chercher leur quille de bière, ils faisaient le saut quand je chantais le Titanic. T'sais. Fait que c'était toujours ça, le parcours comme du combattant, ouais, qui a jamais été. Puis après ça, j'ai travaillé pendant 15 ans au restaurant de la Place des Arts dans le but d'un jour jouer à la Place des Arts.
Là, tu vas peut-être jouer à la Place des Arts un
je
jour.
Je l'ai fait 3 fois.
Tu l'as fait 3 fois. Bon.
Ouais.
Bon,
fait bon. Que c'est beau.
Rapidement, j'ai l'impression que t'es plus connu en France qu'ici parce que moi, c'est par mes amis français que j'ai découvert.
Ben oui, pour vrai, les Français, ils m'aiment bien puis je les aime bien. Fait que c'est une belle relation qu'on a. J'espère vraiment un jour faire une tournée française avec mon spectacle. C'est comme mon but, mon rêve, mon objectif pour les remercier d'aider à faire lever ma carrière.
Bon, je sais que tu as un régime de vie très strict, que tu fais attention à ta voix. Penses-tu qu'on peut imposer un petit 20 secondes de Céline Dion? Ou c'est trop
Céline Dion?
Ou non, ben, la personne que tu veux. La personne que tu veux.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici.
Ah, oh, wow, merci. Avec vous, et puis à ma tête, de demander de faire ça à un artiste. J'ai pris une chance.
Ouais, c'est bien correct.
Dans la vie, on dit, si tu prends pas de chance, on va pas de risque, ça arrive pas.
Non, non, puis on a du fun. Le but, c'est, on est là, on est le matin. Tu sais, quand t'imites, c'est très difficile le matin. Il y a beaucoup de chanteurs qui veulent même pas chanter avec leur voix le matin parce qu'elle est pas réchauffée. Là, je suis venu en vélo, ça aide un peu, tu sais, mais c'est pour ça que mes spectacles sont toujours le soir ou après-midi, tu sais, parce que c'est là que la voix, elle a le plus de couleurs parce qu'elle s'est réveillée. La voix, c'est un muscle. Fait que plus ton corps est réveillé, plus la voix est réveillée.
Ben, c'est tout à fait ce qu'on partage ça. Les gens qui font de la radio, il faut qu'on protège nos voix. Fait que, ouais. Moi, c'est le matin que je fais de la radio. Il faut que ça fonctionne le matin. Mais bon, je n'ai pas à faire des chansons aussi élevées. Écoute, on a un petit peu de temps. Tu rêves donc un jour de faire la première partie de peut-être un show de Céline?
Ben écoute, je sais pas, peut-être Lara Fabian aussi. Il paraît qu'elle a vu mes vidéos il n'y a pas longtemps et elle a vraiment aimé ça. Fait que moi, mon rêve, ce serait peut-être faire une première partie un jour, peut-être en France, ce serait formidable.
David, on lance ça dans l'univers, on sait jamais. Merci beaucoup.
Hey, merci. Bonne journée.
David Corriveau, donc comédien, imitateur, chanteur et etc. Son spectacle s'appelle Sans contrefaçon. Je vous invite à aller regarder pour trouver où il va jouer dans les prochains jours, prochaines semaines. Et,
sur aha.com.
Aha.com, oui, c'est parce que juste pour rire. Merci beaucoup encore.
Merci beaucoup.
Oh. Ben oui, on avait Céline Dion à l'émission aujourd'hui. OK, c'était pas tout à fait la Céline Dion, mais c'était pas loin. Selon des données obtenues par Le Devoir, les plaintes et interventions pour maltraitance sexuelle envers des usagers du réseau de la santé au Québec ont bondi de 45 % en 2 ans. Les chiffres du bureau de la commissaire nationale à la qualité des services révèlent que 939 cas ont été comptabilisés entre 2025-2026, comparativement à 643 cas, hein, 2 ans plus tôt. Ces situations touchent majoritairement des personnes âgées ou vulnérables. Les centres d'hébergement de soins de longue durée regroupant à eux seuls près de 44 % des dossiers répertoriés. La maltraitance sexuelle englobe aussi bien des propos inadaptés et des attouchements, ainsi que le manque de respect de l'intimité lors des soins. Les agissements entre patients représentent environ 6 cas sur 10, alors que près du quart des signalements mettent en cause des employés. Pour la commissaire nationale Martine Gosselin, cette hausse s'explique principalement par un changement de culture et par l'obligation légale de signaler les comportements plutôt que par une augmentation directe des actes commis sur le terrain. Et après la pause, c'est la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Il sera question de Opioïdes et organes, un livre, ce qu'on appelle un roman graphique, si j'ai bien compris, qui est présenté par les éditions Alto. Et on va aussi parler du Festival Trad de Montréal, qui revient du 4 au 6 septembre prochain à la Maison de la Culture, à Hunsic, dans le parc et dans le parc à Hunsic. Et puis, je vous rappelle donc que ça va être encore une petite journée avec de la pluie pour la grande majorité du pays, sauf en Alberta, en Colombie-Britannique, où là, ben, il va faire soleil. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Allez, je défie la loi de la gravité. Optimiste, cérébral, rien ne m'arrête. Je redeviens mon arme vitale. Dans ce chaos, comment dire, c'est un miracle. Un pas devant, c'est preuve de courage. En vue des prévisions d'une tempête imminente. Elle avance, sans masque ni maquillage. Dans ses veines brûle et coule la résistance. Elle tient debout, attention. Elle a mis et tout, regardez-la s'accomplir. Elle prend son envol. Après la pluie,
oh là là là.
Nouvelle saison, nouveau genre, nouveau défi.
Un pas devant, c'est preuve de courage. Un animal libéré de sa cage.
C'était Ellie Rose et sa chanson « Elle tient debout ».
De notre côté, on va rejoindre Anne-Marie Aubin pour sa chronique littéraire. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Martin Denis.
Ça va? Oui, ça va bien. Denis Martin, mais c'est pas grave, ça
Denis
arrive.
Martin,
pas. Ben, oui, ça
je
arrive.
Dis toujours à l'envers, je sais pas pourquoi.
Ah ben moi, c'est le drame de ma vie, j'ai dit beaucoup de choses à l'envers des fois, surtout quand je suis un peu fatigué.
On m'appelle Marie-Claude, Marianne, toutes sortes de noms.
Ah oui, ben c'est pas grave, en autant qu'on s'appelle pas en retard pour le souper. Ça, c'est ma blague habituelle. Voilà, alors, on va parler d'opioïdes et organes aux éditions Alto aujourd'hui. C'est un roman graphique.
Oui, un roman assez long quand même, de 380 pages, abondamment illustré. C'est écrit par une jeune fille, Arizona O'Neill, qui est née en 90, donc elle est très jeune, et elle dessine, elle est essentiellement une illustratrice. Mais ce livre-là, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et sur lequel on sent qu'elle a travaillé des années. C'est le fruit de, je dirais, du cheminement de son deuil, du deuil de son père. Alors, avant, dans la vie, elle a illustré beaucoup de livres, elle a fait des illustrations dans des revues, et a illustré, entre autres, un livre de Nelly Arcand, L'enfant dans le miroir, et puis aussi Valentine in Montreal de sa mère, qui est Heather O'Neill, qui est une écrivaine reconnue, célèbre, qui a publié beaucoup de livres. Donc, dans ce livre-là, il est question de quoi? De la mort, de la vie, des greffes d'organes, de l'éthique autour de ces dons d'organes finalement, de la médecine, du fentanyl, des dépendances aux opioïdes, d'où le titre. Alors, l'histoire commence en 2015, au moment où son père meurt. Elle est à l'hôpital. On la voit qui doit prendre une décision par rapport aux organes sains de son père. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle les donne? Elle va faire ça, effectivement. Et elle se dit qu'il y a des morceaux de son père un peu partout chez des humains qu'elle peut croiser sur la rue. Un peut avoir son cœur, l'autre ses poumons, puis elle trouve ça bien étrange comme situation. Mais surtout, la question éthique de ce livre-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne fait rien pour aider les gens qui ont une dépendance aux opioïdes ou à d'autres toxicomanies, là, mais qu'on va tout faire pour prolonger la vie d'autres gens qu'on considère comme plus dignes de recevoir un organe. Alors que en 2020, elle est étonnée, elle apprend, comme tout le monde, que de plus en plus de décès sont liés aux opioïdes au Canada. Donc, ça fait une banque d'organes et il y a des médecins là, qui lui dit que oui, c'est vrai, on a plus d'organes qu'avant qui sont donnés. Ça fait qu'il y a une banque pour les gens qui sont en attente d'organes. Et ça la met tout à l'envers. Donc, elle va commencer une longue recherche sur l'histoire des dons d'organes, un peu ici, en Europe aussi, aux États-Unis. Pour le besoin de la cause, elle s'est créée des personnages pour pas être la seule dans l'histoire. Alors, autour d'elle, il y a Frankie, qui est en fait la créature de Frankenstein, qui a été créée à partir de restes d'humains et d'animaux. Donc, il y a vraiment un lien avec le prélèvement d'organes. Puis à côté, il y a un petit animal, un petit gecko jaune, qui est sur son épaule un peu partout et qui impose son opinion, qui est comme la bête noire dans l'histoire. Il s'appelle Easy. Et à la première page du livre, avant qu'on commence l'histoire, il écrit dans une bulle, je vous déconseille de poursuivre. Donc, c'est drôle qu'il nous arrête à la première page de la lecture. Alors elle s'inquiète de la façon dont on gère ça, les organes des cadavres d'hier à aujourd'hui, et pourquoi le décès d'un toxicomane est moins important qu'un autre qui est jugé plus digne. C'est de la discrimination, ça va devenir une obsession, et elle va voyager pour faire des recherches, des lectures, des visites. Elle va aller à Dublin, à Boston, entre autres, elle visite là les quantités de crânes et d'os qui sont conservés, puis elle comprend que ce sont des esclaves aux États-Unis dont on faisait pas d'inhumation et qui ont servi pour la recherche. Donc, on s'est servi de leur corps. À Paris, elle va aller d'abord au Louvre, puis elle va voir des célèbres tableaux. Donc, il y a énormément de références culturelles dans ce livre-là. Puis, elle, qui est une illustratrice, ça s'intéresse beaucoup à la peinture, c'est sûr. Mais elle parle, entre autres, du fameux tableau là, comment ça s'appelle, le radeau de la Méduse, où les
Oui.
gens sont là en train de mourir, finalement, donc des cadavres aussi. Et puis elle va aller dans les catacombes. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'elle dessine les escaliers qui n'en finissent plus, les couloirs qui n'en finissent plus. Et elle dit, c'est quoi ce couloir sans fin? Il doit bien déboucher quelque part. Moi, je suis jamais allée dans les catacombes. Mais ça me donne vraiment pas le goût d'y aller, parce que plus elle avance, plus je dirais que le plafond est bas, donc il faut pas être claustrophobe. Mais c'est impressionnant. Elle explique qu'au 18e siècle, les cadavres puaient à Paris, là, ils étaient mal enterrés, et puis bon, ben, suite aux odeurs nauséabondes, ils se sont mis de nuit à les transporter sous terre, partout à Paris. Et là, un jour, quelqu'un a tout classé, les crânes pour que ça soit beau. Et aujourd'hui, c'est un lieu touristique où il y a des gens qui vont voir ça. C'est un peu macabre, mais bon, ceux qui aiment ça, c'est vraiment bien placé. Et c'est donc des os qui datent du 18e siècle à peu près. Les crânes sont ensemble, les fémurs ensemble, et tout ça, c'est tout bien placé. Et elle dit que ça attire les touristes, et je la cite, car chez nous, on cache nos morts. On veut ni les voir, ni les considérer. Donc, il y a aussi toute cette question sur le corps. Ça fait pas mal d'années qu'on ne voit plus les corps des cadavres. Hein? On les fait brûler et on reçoit des cendres. Et moi, j'ai un ami qui entretient les fours où on va faire incinérer les cadavres et il me dit que ce qu'on reçoit dans la petite urne, c'est pas forcément les cendres de notre mort à nous, là.
Ah
Non,
bon?
non. Il y a des cendres là-dedans, plein en bas. Lui, il fait le nettoyage régulièrement. Il y a des œufs, toutes sortes de choses. Et on reçoit des cendres. Et puis, bon, ben, on se dit, il faut y croire. C'est ça le commerce de la mort. Et puis, effectivement, avant, le corps était dans la maison. On le voyait, on veillait au corps. Donc, il y avait une relation avec la mort qui était très différente. Aujourd'hui, c'est très abstrait. Et je me souviens de mon petit-neveu qui avait 6 ans à un moment donné. Il y a son grand-père qui meurt, puis il voit l'urne, puis il dit, est-ce que je peux ouvrir dedans pour voir si papy est dedans, tu sais? Alors, pour lui, c'était de la science-fiction de ce qui se passait, et elle explique que c'est ça. Et ce long passage dans les couloirs du sous-sol de Paris l'a fait basculer dans Alice au Pays des Merveilles. Une histoire où l'héroïne Alice tombe dans un trou et découvre tout l'univers merveilleux. Et là, il va rencontrer les personnages, le chat du Cheshire, puis le chapelier fou, sous la tête de son papa, finalement, qui va servir le thé. Donc, tout ça ramène au deuil et aux différentes démarches qu'elle a entreprises pour à la fois faire le deuil de son père, mais aussi comprendre c'est quoi le rapport qu'on a suite à la mort avec tous ces corps-là. Dans le livre, on sent qu'elle étudie en cinéma, hein, ça se sent dans la composition, les épisodes, les prises de vue, les couleurs, les tons qu'elle va donner sombres, puis tout à coup, la douceur à travers les couleurs pastel. On voyage dans le temps, parce qu'elle nous amène au 18e siècle et puis elle nous amène dans différents pays. Et puis elle nous fait tout le temps des liens avec la science, parce que c'est scientifique, cette histoire-là, c'est pas juste un récit imaginaire. Il y a des preuves, elle consulte des gens, elle fait des lectures, et c'est jamais trop sombre. On n'est pas dans je dirais, la noirceur totale parce qu'il y a de l'humour. Et ce petit personnage jaune, qui s'appelle Izzy, qui s'ostine avec Frankenstein, ça crée un lien, et puis bon, ben, ça crée une légèreté, et ça coupe les angoisses, existentielles de l'héroïne Arizona. Donc, le livre aborde le sujet sur un ton à la fois inquisiteur, puis qui pose des graves questions éthiques par rapport à la mort, mais aussi qui va parfois donner un ton plus, je dirais, magnifique, merveilleux, qui fait référence à l'enfance. Donc, beaucoup de liens avec la littérature, avec les œuvres d'art. Il faut savoir que Arizona O'Neill a grandi avec sa mère, qui était monoparentale, puisque son père était toxicomane et ils n'ont pas vécu ensemble, et qu'elle a passé sa vie à chercher à devenir une écrivaine, sa maman. Donc, elle l'accompagnait partout, elle dessinait tout le temps, et elle a donc choisi d'aller dans l'image, travailler dans le cinéma et l'illustration. Et ça se sent dans la façon dont elle a construit le livre et son traitement aussi. Et à travers tout ça, bien, il y a évidemment son imagination, ses références d'enfant, qu'est-ce qu'elle a lu avec sa mère, dont pourquoi Frankenstein? Parce que sa mère aimait Mary Shelley. Donc, ce personnage-là faisait partie de sa vie. C'était pas un personnage épeurant. Sa mère lui a pas présenté comme ça. Alors, elle est l'amie de ce personnage-là qui la suit partout. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris de choses sur les cadavres. Et puis, je pense que ce livre-là peut plaire à partir de 12 ans jusqu'à l'âge adulte. Et puis, bon, ben là, on suit l'histoire qu'elle nous raconte, mais aussi l'histoire des dons d'organes, des greffes d'organes. Et le résultat est impressionnant au niveau du dessin et des nombreuses pages. C'est une brique, hein? Alors, et puis on traverse ça, on se pose la même question qu'elle, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts, une fois que le cadavre est sous terre, ou qui est incinéré? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui à côté souffrent et puis qu'on ne soigne pas? Bref, il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, mais qui nous mettent mal à l'aise par rapport à tout ça.
Et qui mérite
Voilà.
qu'on en discute, tout à fait.
Oui, effectivement,
Donc,
c'est ça. C'est la réalité d'aujourd'hui.
Ben oui. Alors, Opioïdes des organes aux éditions Alto. C'était publié en 2026. Et l'autrice, Arizona O'Neill. Merci beaucoup, Anne-Marie Aubin. À la prochaine.
La prochaine, au revoir.
Au revoir.
Sur les thèmes, jamais je stay in. Je voyage en faux bain, soirée. J'ai pas le temps de faire le trophée dans tes soupers pour te faire sentir comme un homme. Sorry, j'suis pas la bonne.
C'était la chanson « Attends-moi pas » de Junes.
Le Festival Trad de Montréal revient du 4 au 6 septembre à la Maison de la culture Hunsic et dans le Parc Hunsic. Encore cette année, la programmation proposera, entre autres, des spectacles sur scène, des concerts, des ateliers de musique et de danse, des sessions de musique amateur, des classes de maîtres, des animations et bien plus encore. Et pour en parler, on reçoit Olivier Arsenault, il est membre du comité de programmation du Festival Trad de Montréal. Bienvenue à l'émission.
Merci pour cette belle introduction.
Merci. Alors, comment le comité a-t-il conçu cette programmation 2026 là, pour refléter peut-être l'évolution de ce qu'on dit, le patrimoine vivant.
Tout à fait. Déjà, le comité était constitué d'artistes en danse, d'artistes en musique, des gens de Montréal, des gens aussi de l'extérieur. On avait deux personnes qui étaient à Québec. Donc, on a essayé, là, avec chacun ses antennes, d'aller chercher là, des projets qui étaient chacun sur nos radars. Donc, on a tout ramené ça ensemble pour créer une belle programmation, comme un grand buffet avec quelque chose pour tout le monde.
Donc, la danse, la musique, la chanson. Faudrait peut-être définir qu'est-ce qu'on veut dire par trad?
Oh, c'est
une bonne question.
Ça,
hein?
ça commence bien. Dans le fond, on identifie le côté trad ou folklore ou traditionnel. C'est un peu tout similaire, puis c'est même un peu des modes qui changent selon les mots. Mais c'est ce qui s'appelle donc culture québécoise de base. Mais là, comme vous voyez peut-être dans la programmation, on a aussi des artistes, une artiste autochtone. On a des gens aussi qui nous arrivent plus de la France avec des fest-noz, donc des espèces de grandes danses bretonnes. On a un groupe aussi qui nous arrive de France. Et on va avoir du hérou, donc qui va remplacer le violon dans de la musique traditionnelle. Donc déjà, là, la définition de trad s'élargit de plus en plus. Là. C'est la célébration de cette culture-là, puis chacun y apporte sa couleur.
Donnons des exemples de cette programmation. Parlons peut-être des spectacles qui seront présentés.
Oui, tout à fait. Justement, là, j'ai commencé avec l'artiste autochtone. Mm-hmm. On a Sandrine Masse là, qui va ouvrir notre festival le vendredi soir, le 4 septembre, avec Renaud Berthelot. Puis on a aussi des invités qui nous arrivent de Nouvelle-Angleterre avec les Pine Tree Flyers, un quatuor là, qui déménage pour la peine. Puis cette soirée-là va être clôturée par un jam de chansons. C'est une première, je pense, pour le festival. Donc, vraiment mettre l'honneur pour la chanson. Il va y avoir quand même des jams à chaque soir. Donc, tous les musiciens ou même les néophytes un peu qui veulent voir c'est quoi une veillée trad là, et vous allez être servis.
Allons-y aussi, peut-être, si on veut aller au niveau de la danse, parce que je pense qu'il y a des spectacles de danse, et ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça grandiose, parfois, de voir ces spectacles-là.
Oui, oui, c'est super. Bien, la danse est célébrée de manière différente. Fait que, oui, il y a des programmations. Donc, il va y avoir Yarrow, un duo de Yaël Azoulay et Robin Bouliane, qui ont, pendant la pandémie, se sont fait un projet de se challenger, puis de faire des 6 compositions différentes, avec 6 compositions autant musicales que giguées. Donc, on va avoir un aperçu de ça. Ils vont être à l'extérieur, puis même à l'intérieur aussi. Donc, on va avoir ces petites interventions-là. On a aussi la compagnie Zeugma qui vont venir présenter leur spectacle jeune public de spécialisé en gigue. Donc, ça s'appelle le Hérisson. Ça s'adresse aux tout-petits, puis ça parle, je crois, du deuil. Donc, réussir à parler avec la gigue aux petits de deuil, c'est tout un défi.
Bon, on a un peu effleuré les spectacles, mais si j'ai bien compris, au-delà des spectacles, il y a aussi des conférences qui viennent avec ça.
Exactement, ben oui, des conférences et aussi des classes de maîtres.
Des classes de maîtres, oui.
Mais pas le spectacle, mais le festival s'ouvre, donc juste un petit peu avant Sandrine Masse, on a Olivier Paris qui va venir nous faire une conférence sur les danses traditionnelles. Il a fait de la collecte de à peu près toutes les danses qui se sont dansées au Québec côté trad.
Ah ouais.
Puis il nous fait un bel échantillonnage de tout ça. Là. J'ai vraiment très hâte d'assister à cette conférence-là.
Et est-ce qu'il y a d'autres conférences? Qu'on va parler de chansons aussi, peut-être, dans ces conférences? Parce qu'il y a tout un répertoire au Québec, puis je pense qu'il y en a tout un aussi dans le monde. Là.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, là, la richesse de notre répertoire chanté est vaste. On a une équipe là, qui, dans le fond, Volage, qui est un nouveau band de chansons traditionnelles, un super beau band jeune et très, très, très ouvert. Donc, ils vont venir nous chanter ça. Ils sont en spectacle, mais ils vont aussi faire un jam. Et aussi, il y a des classes de maîtres. Donc, si vous voulez apprendre, justement, il y a des classes de maîtres un peu en n'importe quoi. Il y a le côté danse, le côté musical, le côté chanson. Donc, il y en a pour tout le monde.
Pour ceux qui ont vu la pièce de théâtre... Pas perdu.
Exact.
C'est vraiment Denise Barbeau-Lavalette, si je ne me trompe pas, oui, et qui donc fait cette espèce d'historique de la gigue au Québec, puis on se rend compte, oh là, ça remonte à longtemps.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette espèce de culture, si on peut dire culture trad, est-ce que c'est en train d'avoir une nouvelle vie ou ça. Parce qu'il me semble que pendant longtemps, on n'en parlait pas, puis là, maintenant, c'est là.
Ben oui, on dirait qu'on se fait de plus en plus inviter, mais c'est ça, c'est toute une couche, une culture, une communauté qui vit de ça à l'année longue. Là. Hier soir encore, j'étais dans un jam avec une trentaine de musiciens, avec la danse, avec la chanson. Donc, il y a une culture extrêmement vivante, puis il y a des nouvelles faces qu'on voit apparaître dans tout ça. C'est super beau à voir, c'est en ébullition. Puis il y a justement la nouvelle génération un peu qui n'a pas le côté, le préjugé de l'étiquette quétaine.
Ah, mon Dieu, j'allais y aller moi-même, oui.
Oui. On sait avec quel genre de boulet on traîne, puis ben, c'est ça qui est beau dans leur regard, dans le regard de la nouvelle génération. Mais il n'y a pas ça. Ça n'a pas été transmis, ce côté-là. Ils voient juste le côté... le côté partage, le côté joyeux de cette culture-là. Donc, on est super contents. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à un super beau projet qui se passe le dimanche. C'est l'ensemble Trad Jeunesse. Ça, c'est un projet qui a été mis sur pied justement par Espace Trad, l'ensemble qui chapeaute le festival. Ça s'est commencé l'année passée, je crois, en début d'année. C'est un orchestre qui est composé de jeunes, là, je pense, 11 ou 12 ans jusqu'à 17 ans. C'est superbe. Ils ont accès à des mentors, ils ont accès à des passeurs de tradition directement. Puis ils commencent à avoir beaucoup, beaucoup d'expérience déjà dans ce petit noyau-là. Donc, c'est super riche pour la prochaine génération. C'est clair que le futur du trad passe par eux.
Moi, j'entendais dans ma famille, quand on parlait de traditionnel, c'était aussi une façon de... passer l'histoire ou notre culture d'une personne à l'autre. Hein? Parce que souvent, les chansons racontent une histoire.
Oui.
Et là, je vais être corrigé, là, mais si je me trompe, on me disait souvent, ben, les gens ne savaient pas lire ni écrire, mais ils se transmettaient l'histoire par des chansons. Est-ce que je me trompe?
Tout à fait. C'est exactement ça. Là. C'est ce qui est beau aussi de voir ces chansons-là, ces musiques-là, ces airs-là qui passent par des passeurs de tradition. Donc, le mot le dit, la chanson, l'air ne t'appartient pas. Tu le fais vivre, tu y donnes ta couleur, puis tu le passes à la prochaine génération. Il y a quelque chose de super beau avec ça. Donc, on joue des vieilles tunes, on joue des vieilles affaires, mais qui sont à chaque fois qui sont remises en vie par le passeur, par le musicien, par le danseur.
J'allais dire à la blague, c'est comme la recette de sauce à spaghetti qui se passe d'une génération à l'autre, puis il y a toujours un ingrédient de plus qui s'ajoute et un autre qu'on enlève, c'est à peu près la même chose.
Tout d'un coup, il y a du curcuma. Olivier,
vous, c'est quoi votre ce qui vous attire, votre spécialité?
Ben moi, je suis danseur aussi. Ah, là, oui. Donc, je suis danseur spécialisé en jig. Je danse depuis que j'ai 7-8 ans. Ah, puis, c'est ça, j'ai découvert ce milieu-là, pas parce que je l'avais dans ma famille, mais parce que je suis tombé un peu en amour avec cette communauté-là, cette manière-là de mordre dans la musique, dans la vie, dans cette tradition-là. Puis en arrivant à Montréal, ben c'est ça, il y a tout un monde une belle communauté qui s'ouvre aussi ici.
Alors pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations, on trouve ces infos sur le web, j'imagine?
Tout à fait. Ben, c'est ça, vous pouvez chercher Espace Trad ou Festival Trad Montréal. Vous allez tomber sur les informations.
Et la billetterie est là aussi au besoin.
Exactement. Puis j'en profite juste, je parlais de l'ensemble Trad. Les auditions sont encore ouvertes pour l'année prochaine. Donc si vous avez un jeune qui est intéressé à la musique, qui veut jouer avec d'autres mondes, qui veut rejoindre une belle communauté, les mêmes informations vont être accessibles par ces liens-là.
Bien, merci beaucoup, Olivier Arsenault, membre du comité de programmation du Festival Trad de Montréal. Et je rappelle que ça se déroule du 4 au 6 septembre à la Maison de la culture Hunsic et dans le parc Hunsic. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un grand merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission au quotidien du mardi 25 août. Je m'appelle Denis Martin Chabot à la régie, Mathieu Tessier. Merci tout le monde. À demain.